cose tutte le volte. Era la cosa lì, diciamo, l'analisi di clôture di tutte le études. Il n'y a pas de micro, je vais essayer de parler en micro. Consistera dans une réflexion sur la relation aujourd'hui entre ce qu'on pourrait appeler la jeunesse, enfin j'essaierai de le définir tout à l'heure, et les problèmes contemporains d'Israël. C'est bien entendu des deux côtés, tant du côté de la jeunesse que du côté d'Israël, un problème très vaste, mais je voudrais me tenir à la ligne directrice des études que nous avons eues, et qui est la comparaison que nous avons faite toute cette semaine entre la génération de la sortie d'Égypte et la génération contemporaine du peuple juif, et en particulier d'Israël. Puisque le postulat, disons, c'était ensuite plus qu'un postulat, mais le postulat de toutes ces études a été cette analogie par le biais de cette notion de fin d'exil, qu'il y a une génération de la fin de l'exil, et nous l'avons vécu, et d'autre part, la génération de la délivrance. Or, ces temps-ci, il y a un certain nombre de remarques à faire. D'une part, que la plus grande majorité de la jeunesse du peuple juif est sollicitée par des préoccupations qui semblent apparemment être très loin d'une sorte de prise de responsabilité par la jeunesse du peuple juif des problèmes qui concernent proprement Israël. Vous connaissez ce terme général d'ailleurs qui a été très souvent enseigné par les maîtres du judaïsme à travers les siècles, qui a été utilisé en particulier par les maîtres du Moussar, et qui est basé sur un verset du Cantique des Cantiques, « Samouni notra et akeramim, car micheli l'onatarti. » Ils m'ont placé comme gardien des vignes, mais ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Et on s'aperçoit, il y a aussi des raisons pour cela qui sont intimes quand même au projet de l'histoire d'Israël depuis l'origine. On s'aperçoit que très souvent, dans les moments les plus importants, dans les moments de mutation, dans les moments de névralgiques, si j'ose dire, ou de charnières de notre histoire, une très grande quantité de l'énergie des personnes d'Israël, en particulier au niveau de ce qu'on appellera la jeunesse, j'essaierai encore de le définir tout à l'heure, se trouvait séduite ou attirée par de tout autre idéaux, de toute autre perspective que ce qui concerne proprement la société juive et le projet historique de l'identité d'Israël. Et on remarque que c'est de nouveau le cas de notre temps, dire quel que soit, et à travers les prises de conscience et de rassemblement qu'il y a, non seulement dans la diaspora, mais par rapport à Israël, autour des choses juives, de l'avenir de l'identité d'Israël, il y a eu indéniablement un regroupement de la jeunesse. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que ce qui se passe dans cette maison, dans d'autres maisons, et en France il y en a déjà plusieurs et beaucoup, c'est quelque chose de radicalement nouveau pour ceux d'entre vous qui se rappellent de l'état de la diaspora française il y a 25 ou 30 ans, ou immédiatement après la guerre. Ceux même qui se rappellent comment c'était avant la guerre mondiale, c'était pratiquement un désert, il n'y avait rien. Et puis, finalement, il y a relativement beaucoup. Je crois que ce relativement, par rapport à, ça c'est Yahatit, mais par rapport au nombre réel des personnes juives, c'est encore peu de choses. Malgré tout, il y a un rassemblement des intérêts et des préoccupations indéniables. On n'arrive pas à comprendre comment ça a pu se faire, mais ça s'est fait. Et puis, on sent que cela se dénoue, cela se détache un peu. Et en particulier, il y a actuellement indéniablement, et alors là, nous allons déborder un peu l'aspect proprement enseignement, enfin études, connaissances que nous avons eues un peu toute la semaine, pour aborder un niveau de réflexion plus général, idéologique si vous voulez, ou même d'aspect politico-social. Il y a indéniablement une crise de motivation dans ce qu'on pourrait appeler d'une façon générale le mouvement sioniste, c'est-à-dire l'idée qui relie le peuple juif en général à l'État juif, à la société israélienne. Et cette crise de motivation atteint en particulier ce qu'on appelle la jeunesse. Alors c'est sur cela que nous avons essayé de réfléchir. Je vous communiquerai un certain nombre de remarques, surtout qui m'ont été suggérées par le dernier congrès sioniste. Et pas seulement le congressionnisme lui-même, il y a eu en même temps à Jérusalem cette année tout un certain nombre de congrès, le congrès des synagogues, le congrès des sfaradim, puisqu'il y a aussi un problème sfarad, on en parlera tout à l'heure, et le congrès sioniste proprement dit, et on a ressenti de façon assez aiguë. Vous savez, nous avons une histoire accélérée ces temps-ci, et chaque année, les problèmes se développent de façon accélérée. On a ressenti une sorte de désarroi de motivation. Alors, j'essaierai aussi de définir ce point tout à l'heure, mais en particulier, je pensais qu'il était peut-être important de faire le bilan de ce qu'a représenté l'impact de la jeunesse en tant que telle dans l'histoire juive depuis l'origine, pour arriver à nos problèmes contemporains. Et la remarque qui m'est apparue, c'est que d'une façon générale, dans toute la tradition juive, on ne parle jamais de cette réalité si intense de nos jours, dans la civilisation contemporaine, on ne parle jamais de ce phénomène, de ce fait que représente la jeunesse. Vous savez que je suis un ancien des mouvements de jeunesse, depuis déjà très longtemps, donc ça peut vous sembler paradoxal, mais cette première remarque m'a beaucoup frappé dans mes études. Il n'y a pas de trace de ce que peut représenter la jeunesse dans l'histoire d'Israël depuis l'origine. Vous avez dû remarquer cela. Je vais vous communiquer un certain nombre de remarques et nous allons peut-être y réfléchir ensemble. Je n'ai trouvé finalement dans toute la Torah qu'un seul verset où il est fait allusion à la jeunesse. Et nous y arriverons tout à l'heure, on l'étudiera, ça nous servira d'introduction à ce problème. Mais d'abord une première remarque. Et cela, je le formulerai assez rapidement, mais c'est finalement le résultat de mon propre militantisme, si j'ose dire, dans les mouvements de jeunes. Et au fond que la jeunesse, c'est pas exactement un âge. Et si c'était un âge, ce serait une situation absolument artificielle. Parce que de toute façon, ça ne durerait qu'un certain temps, et on ne peut pas... Il est réel et indéniable que l'on doit parler d'un fait, d'un phénomène jeune, de la jeunesse, mais ce serait très difficile à le définir au niveau de l'âge. Au niveau de l'âge, pourquoi? Parce que finalement, nous les hommes, nous sommes des personnes, des individus, qui traversons un certain nombre d'âges. On ne peut pas dire qu'il y a une réalité de la jeunesse en soi qui serait définie au niveau de l'âge, tout simplement parce que les personnes vieillissent. Et au fond, la jeunesse comme telle serait un stade transitoire qu'il vaut mieux quitter le plus rapidement possible. Vous comprenez de ce point de vue-là. Alors on est devant une espèce de paradoxe. Il n'y a pas de doute que la société contemporaine est bouleversée, enfin est secouée par d'énormes mouvements, pas seulement d'allure politique ou sociologique, ou revendicatif, mais aussi une espèce de prise de conscience d'ordre spirituel, comme peut-être aucune génération ne l'avait connu dans la civilisation contemporaine. Bien entendu, il y a toujours eu à chaque stade du développement de la civilisation occidentale, dont nous sommes plus ou moins participants, il y a eu des mouvements analogues à ce qui se passe depuis la dernière guerre mondiale, mais pas seulement du point de vue du nom, mais de l'intensité, de la profondeur de ce bouleversement, il y a quelque chose de radicalement nouveau qui apparaît comme si l'humanité dans son ensemble, c'est très schématique mais finalement réel, était occupé à une prise de conscience qui est aiguë surtout au niveau d'un certain âge qui serait le stade de la jeunesse. Malgré tout, il ne faut pas oublier qu'il y a là quelque chose d'éminemment provisoire si, et donc artificiel s'il ne s'agissait que d'un âge. Et je peux dire de par mon expérience, qu'à part un certain nombre d'exceptions et qui ressortent de la qualité des personnes plutôt que de l'âge, encore une fois, j'ai connu des dizaines, des centaines de militants au niveau jeunesse qui sont devenus quelques années après de braves bourgeois, comme on dit, bien installés et qui semblaient avoir radicalement oublié ce qui avait fait le fer de lance de situation en tant que jeune. Et corollairement à cette remarque, je me suis demandé pourquoi tout s'est passé comme si, dans la tradition juive, il y aurait une sorte, disons, de méfiance par rapport à ce fait, à ce phénomène de jeunesse, de telle sorte qu'il y a une sorte de tabou. Dans aucun texte, on ne parle de l'importance des jeunes comme tels dans l'histoire. Je crois que c'est la, la première remarque de laquelle nous allons parler. Alors en introduction, malgré tout ce cas exceptionnel qui se trouve dans la génération de la sortie d'Égypte, et il en est parlé dans le chapitre 24 de l'Exode, dans la sidra de Mishpatim, à partir du verset 1 jusqu'au verset 8 à peu près. Voici ce qui se passe. Et là, nous retrouverons un sujet d'étude que vous avez dû certainement aborder par d'autres biais. C'est que finalement, la Torah n'a pu être donnée à Israël comme alliance et comme charte de l'alliance entre Dieu et Israël, authentifiant tout ce projet historique d'Israël qui commence au patriarche, que lorsque le peuple d'Israël a accepté cette Torah comme charte. Et d'où la fameuse phrase qui revient sous des formes un peu différentes à ce propos, « Kol asher diber Hashem na'aseh ». C'est lorsque le peuple dit tout ce que Dieu va nous proposer, nous sommes prêts à le faire, que cette alliance peut être conclue, peut être contractée. Et nous avons d'ailleurs certainement parlé de cela dans notre contexte. Il y a une sorte d'acceptation a priori de l'alliance par Israël. En fait, tous les textes sont formels à ce sujet. La valeur de l'alliance, de la bérite, qu'il y a entre Dieu et Israël, vient de Dieu. Ce n'est pas d'abord Israël qui a choisi Dieu, c'est Dieu qui a choisi Israël. Et ensuite, cette alliance n'est incarnée, réalisée vraiment dans l'histoire que dans la mesure où le deuxième partenaire, c'est-à-dire Israël, a accepté. Il y a là un tout autre problème, il y a un jugement que le Créateur fait sur son histoire et il perçoit que le projet de sa création passe par une certaine identité qui affleure, qui émerge au niveau de l'identité des patriarches. Et c'est Dieu qui choisit Abraham avant qu'Abraham n'ait choisi Dieu. Il y a eu, bien entendu, un mouvement, enfin, comment dire, une germination, une gestation de l'identité Israël déjà en Abraham. Ce n'est pas n'importe qui que Dieu a choisi, mais c'est Dieu qui a choisi Abraham. Abraham, Asher, Bahar, Tibo. Je crois qu'il y a un verset comme ça, s'il n'y en a pas un, il faudrait qu'il y en ait. Mais et effectivement, l'alliance ne deviendra concrète et définitive qu'à cette génération de la sortie d'Égypte où le peuple, de sa propre initiative, rejoint cette convergence et puis accepte et prend l'initiative d'accepter, d'où cette phrase par exemple que nous allons trouver au verset 3 de ce chapitre 24 de Mishpatim, de l'Exode. Vayaham kol ha'am kol echad vayomru kol ha'debarim asher diber Hashem na'ase. Et le peuple, d'une seule voix, a répondu à Moïse lorsque Moïse voulait lui transmettre les lois qui deviendraient la Torah, l'alliance de la Torah, et le peuple a dit ensemble, kol ha'debarim asher diber Hashem, toutes les paroles, tous les commandements que Dieu a prononcés, a formulés, na'ase, nous ferons. Il y a là d'ailleurs une explication assez importante qu'il faut rappeler. C'est que le Matan Torah, la révélation de la Torah au Sinaï, a été un événement exceptionnel. Ça a été un cadeau, si j'ose dire. Et d'ailleurs, c'est comme ça que cela est dit en hébreu, Matan Torah, ça veut dire le don de la Torah. C'était un sommet auquel Israël a été appelé par Dieu. Il y a eu un moment de mariage, un moment de convergence intense, très haut, mais c'était un cadeau. Et cette phrase dans la bouche d'Israël a une résonance extraordinaire à cette génération. C'est-à-dire, tout ce que Dieu avait dit, nous l'avons reçu en cadeau, mais nous voulons faire quelque chose, nous voulons le réaliser de telle sorte de pouvoir l'obtenir par nous-mêmes, l'incarner par nous-mêmes, que ce Matan Torah devienne Kinyan Torah. Et alors commence toute une histoire. Après le Sinaï, il semble y avoir une chute, et il y a toute une histoire qui commence de très bas pour reconquérir ce sommet du Sinaï. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe ici? C'est-à-dire, il y a eu, dans un moment, comment dire, fulgurant, le fait que Dieu a donné la Torah à Israël. Et puis ensuite, commence toute notre histoire par laquelle il s'agit de réaliser en nous cette Torah, d'où le narrateur avant le Mishmar, comme nous verrons tout à l'heure, que nous allons le faire par nous-mêmes, et alors que cela toutes les péripéties et toute la difficulté, doucement, léas, enfin d'étape en étape, jusqu'à ce qu'on revienne par nous-mêmes à ce moment du Sinaï. Et c'est dans le contenu même de la formule. Or, à ce verset-là, lorsque Moïse a expliqué au peuple toutes les paroles que Dieu l'a chargé de transmettre, le peuple a dit, eh bien, toutes ces paroles-là, nous allons les faire. C'est-à-dire les réaliser d'abord par nous-mêmes, de telle sorte de pouvoir revenir, mais avec notre propre acquis, avec notre propre mérite, au niveau où Dieu s'était révélé au Sinaï. Et c'est donc le Sinaï est une sorte de préfiguration de Olam Haba. Il y a du monde à venir. Il y a une sorte d'analogie avec ce que raconte le premier récit de la création, que Dieu en principe a créé le monde à venir, le monde parfait, le monde de lumière, et puis que ce monde de lumière s'est dégradé dans ce monde-ci, et qu'il commence toute une histoire pour retrouver son projet, pour retrouver, et d'ailleurs cette lumière totale, mais qui nous a été retirée et laissée que par trace, nous est restée dans notre vie intérieure, dans notre neshama, comme exigence et comme nostalgie. Si nous savons où nous devons aller, c'est parce que nous avons vu déjà une fois où il fallait aller. C'est rester en exigence, en creux, mais il y a un critère absolument sûr qui nous dirige, parce qu'il y a une trace de cela qui nous permet de faire les diagnostics réels. Chaque fois qu'une maquette possible de ce qu'il fallait espérer nous est présentée, Israël dit, regarde un peu, et dit non, c'est pas ça. C'est pas encore ça, comme si on se souvenait de quoi il devait s'agir. Je répète, on se souvient de quoi il s'agira. Et malgré tout, Moïse n'est pas satisfait et l'alliance n'est pas tranchée avec le peuple, bien que le peuple ait dit à ce moment-là, Kola devarim asher diber Hashem na'ase. Voici les versets qui suivent. Vayirtov Moshe et kol divrei Hashem, vayashkem baboker, et alors Moïse a écrit toutes les paroles de Dieu, il s'est levé de bon matin, il a construit un hôtel, Tahatahar, sous la montagne, où Israël, avec 12 feuilles pour les 12 tribus d'Israël, et puis verset 5, Vaishlach et Naharé bené Israël, et il a envoyé Naharé bené Israël. Voilà la seule expression où il y a la jeunesse d'Israël. Et il a envoyé les jeunes des enfants d'Israël, ils ont offert des sacrifices, de l'okot, Vaïbechus Bachim, Shlamim, Lachem, Paritov. Verset 6, Vaïkach Moshe Hati Adam, Vaïasem Bagagod, Hati Adam Drakal Mesbeah. Il y a l'alliance qui est scellée par le fait que le sang des sacrifices est versé sur l'autel. Verset 7, Vaïkar Sefer Abirik, et il prit le livre de l'Alliance, Vaïkra Beozne Aham, il l'a lu aux oreilles du peuple, Vaïomrou, et il dit, Kol Asher Diber Hashem Na'aseh Venishma. Tout ce que Dieu a dit, nous ferons et nous écouterons. Voyez la deuxième formule. La première formule était Na'aseh, et il semble que Moïse n'est pas satisfait encore. On a promis de faire, et pourtant l'Alliance n'est pas tranchée. Alors qu'est-ce que fait Moïse ? Il envoie les jeunes d'Israël en dehors du camp, des vieux, si j'ose dire, faire le sacrifice de l'Alliance. Et parce que les jeunes d'Israël ont fait le sacrifice de l'Alliance, alors l'Alliance est tranchée. Et d'où cette phrase, non seulement Na'asé, mais Na'asé Benishma. Non seulement nous ferons ce que nous avons déjà entendu, mais nous sommes prêts encore à écouter s'il y a encore à entendre. Ce qui est le pshat de la phrase. Tout ce que Dieu a déjà dit n'a assez, ça nous pourrons se régler, Benishma, et nous sommes prêts encore à écouter s'il y a encore un projet d'avenir ultérieur. Et tous les commentateurs sont d'accord pour dire que c'est le pshat de la phrase. D'une part, l'acceptation de faire ce qui a été déjà entendu, mais ça, ce qui n'était pas jeune l'avait déjà dit, et Moïse n'est pas satisfait. Il attend encore donc autre chose, et puis il choisit les jeunes, les Naharé bené Israël. Et puis voilà que ça marche. Alors, la formule définitive apparaît, Kol Asher Diber Hashem Na'aseh Venishma. Bien, ça nous servira d'introduction pour cette analyse. Je crois que c'est important de rappeler que si l'alliance de la Torah a été conclue avec Israël, Eh bien, c'est bien entendu, parce que l'ensemble du peuple a accepté cette alliance de la Torah, mais elle a été vraiment définitive que lorsque, disons donc en termes contemporains, la jeunesse d'Israël a pris l'initiative, et à sa manière, a pris l'initiative d'accepter d'être le partenaire de l'alliance à titre du peuple tout entier, mais au niveau de la jeunesse. Or, si l'on cherche une définition de ce que représente la jeunesse en général, je crois qu'habituellement on arrive à la conclusion suivante. On dit que s'il s'agit des individus à l'échelle d'un peuple ou de l'humanité en général, qui sont les porteurs de l'avenir. Bien, c'est pas faux, mais c'est pas du tout complet. Parce que être les porteurs de l'avenir d'une certaine identité, ce n'est pas, encore une fois, ce n'est pas le propre de l'âge. Et il suffit de se rappeler, il peut y avoir des hommes très âgés qui sont en réalité les porteurs de l'avenir. Nous avons ici un exemple. Voilà. Et c'est dans sa vieillesse qu'Edmond Flegg a été finalement ce qu'il a été par rapport à l'avenir de beaucoup de, non seulement d'individus, mais de beaucoup de réalités concernant une communauté tout entière qui est la nôtre, celle des juifs parlant français. Et puis, surtout parce que si être porteur de l'avenir, cela concerne un certain âge, disons entre 14, 15 ans et puis jusqu'à quand, au fond, c'est un problème. Eh bien, très rapidement, on quitte cet âge et alors on ne serait plus le porteur de cet avenir. En réalité, l'expérience montre que ça ne suffit pas pour définir ce qu'on pourrait appeler le stade, sinon l'âge jeune, d'une société ou d'un peuple. Je crois que la remarque que nous allons voir maintenant explique simultanément ce qu'est en réalité l'identité jeune et la raison pour laquelle il n'y a jamais eu de cette réalité, la jeunesse dans l'histoire d'Israël jusqu'à notre temps. Et au fond, être jeune, ça veut dire vivre au présent. Voilà, je crois que la formule la plus simple. Ça veut dire que l'on perçoit une sorte de coïncidence et d'homogénéité entre ce que l'on porte en soi comme exigence de vie et de valeur et le fait qu'on les réalise, qu'elles sont vécues réellement dans le temps où l'on vit. Or, Israël n'a jamais été de son temps. C'est la raison pour laquelle Israël n'a jamais eu de jeunesse dans ce sens-là. Il y avait des enfants, il y avait des jeunes gens, mais il n'y avait pas la jeunesse dans le sens contemporain ou moderne du terme. Et effectivement, nous voyons bien que les mouvements de jeunesse n'ont existé en Israël que dans le temps contemporain. Je donnerai quelques repères dans le passé, mais d'une façon générale, schématiquement dominante, si l'on traverse toute la littérature traditionnelle juive, toute l'histoire d'Israël, on s'aperçoit qu'il n'y a jamais eu de jeunesse en Israël. Est-ce que vous comprenez, ça a l'air d'être paradoxal, enfin c'est un fait qu'il en a été un. Mais je crois que c'est corollaire de la remarque que je viens de vous dire, Israël n'a jamais vécu au présent, sauf à quelques moments de son histoire, peut-être trois moments et pas plus. D'abord, au temps de la sortie d'Égypte, l'identité d'Israël a coïncidé avec son présent. Elle n'était pas anachronique dans le sens étymologique du terme, c'est-à-dire soit se définissant par le souvenir d'une identité antérieure, soit se définissant par l'espérance d'une identité future. Or, nous avons été toujours, en quelque sorte, écartelés entre une mémoire et une espérance. Et nous n'étions jamais en phase sur le temps présent d'un monde. C'est clair. Et surtout pendant le temps de l'exil. Et de ce point de vue-là, on peut dire que Israël ne s'était jamais senti jeune. Il y a donc l'exemple de la sortie d'Égypte, peut-être le temps de Maccabi, et puis le temps présent. Je reviendrai surtout à ce troisième moment tout à l'heure. Et cette interrogation, nous la trouvons dans un dialogue qu'il y a entre Joseph et ses frères. Lorsque les frères de Joseph arrivent en Égypte, Joseph est inquiet de savoir qu'est-ce qu'il en est de l'identité d'Israël dont il avait décroché pour s'installer comme juif de diaspora par excellence, devenu le premier ministre de l'Égypte. Joseph est vraiment la figure, comme nous le voyons souvent, du juif de la diaspora par excellence. À tel point déguisé que lui arrive à reconnaître ses frères, parce que mais que ses frères n'arrivent pas à le reconnaître. Vous savez d'ailleurs ce que le Midrash dit, et que, qui est cité par Rashi, lorsque Joseph se dévoile et que Jacob finalement descend en Égypte pour le rencontrer, alors Jacob dit « Reot panecha lo pilalti ». Le pshat, ça veut dire « Jacob dit à Joseph, voir ta figure, j'aurais jamais espéré avoir un étonnement pareil ». Et alors Rashi dit « Pourquoi ?» Il dit « Parce que tu n'as pas de barbe ». Elle dit Jacob ne reconnaît pas son fils comme un hébreu, puisqu'il était déguisé en égyptien, grosso modo. Vous voyez à peu près le problème. Bon, mais finalement, la première phrase, la première interrogation que Joseph dit à ses frères, c'est, il leur demande, « Hayesh lachem av oach ?» Est-ce que vous avez un père ou un frère ? Du point de vue du sens simple du texte, alors on comprend que Joseph était inquiet de savoir si son père et son frère étaient encore vivants. Benjamin, il voyait tous les autres frères, alors il en manquait deux, le père et Benjamin. Alors il leur demande, c'est un langage à double sens d'ailleurs. En fait, ils savent très bien qui ils sont. Mais il y a, cette interrogation est en réalité, si j'ose dire, un interrogatoire. Il voulait leur demander, est-ce que vous êtes vraiment encore Israël ? Alors il demande, est-ce que vous avez un père et un frère ? Et ils répondent, et la réponse était exacte, ils ont bien passé l'examen, ils répondent, « Yeshlanu av zaken veyeled lekunim katan » Et ils répondent, « Nous avons un père vieux et un fils de vieillère, c'est-à-dire un fils très, très jeune, petit. » Ça veut dire, ils répondent, « Nous avons et le passé et l'avenir. » Mais c'est Joseph à l'époque qui était le présent, si je vous dis. Vous voyez ce qui se passe là ? Ça veut dire, s'il ne pouvait pas répondre, nous avons un père vieux, ça veut dire toute la mémoire du monde, nous l'avons. Et, mais ça n'aurait pas suffi. S'il ne pouvait pas répondre, nous avons Benjamin, ça veut dire nous avons Yéret, Zekounim, Katan, alors peut-être que Joseph, on ne refait pas la Bible à l'envers, mais peut-être que Joseph leur aurait dit, alors c'est pas vrai. Il fallait aussi avoir le Yéret, Zekounim, Katan. Vous comprenez le sens de ce qu'il y a là. Et je crois effectivement que s'il y a un problème, des rapports entre la jeunesse et les choses d'Israël, eh bien c'est à ce niveau qu'il se pose. C'est-à-dire, l'histoire juive est entrée dans le présent. C'est-à-dire, avec le projet sioniste, du moins avec la réalisation du projet sioniste, alors se produit un phénomène radicalement nouveau. En tant que juif, nous ne sommes plus comme jusqu'à notre temps, c'est-à-dire soit se définissant par la fidélité au Arzaken, et puis dans l'espérance du Yéret de Konim Katan, c'est-à-dire par la mémoire et par l'espérance uniquement, et effectivement, je crois que l'on peut dire que nous n'avons jamais été vraiment d'aucun temps dans le présent. Et que par le fait que l'histoire, que notre histoire actuellement est au présent, alors qu'il y a un problème concernant la jeunesse. Enfin, le fait que des juifs veulent être jeunes, ça voudrait dire qu'ils ne veulent plus être juifs s'il n'y avait pas cette occurrence historique de la rencontre entre Israël et le présent. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Et donc là, la seule réponse cohérente, figurée, pour un juif qui veut être jeune, ça voudrait dire de vivre au présent, c'est-à-dire de considérer que tant les nostalgies que les espérances de l'identité d'Israël commencent à trouver leur réalisation. Et vous comprenez dans quel sens ? Qu'il ne peut y avoir de jeunesse authentique en Israël que dans la mesure où elle est reliée à l'histoire présente d'Israël. Or, l'histoire présente d'Israël se passe en Eretz Israël. Voilà grosso modo la première remarque. Et d'où vient le problème ? C'est que la majorité de ces juifs qui se veulent être jeunes, c'est-à-dire au présent, ne sont pas en réalité reliés à l'identité d'Israël. Même lorsqu'ils vont, quoique le passage est indélébile, ça laisse une trace indélébile, il y a un virus. Même comme ils vont comme touristes, si vous voulez, ou comme je sais pas quoi, il s'agit en réalité d'une polarité d'identité qui finalement ne touche qu'une très faible partie de ce que l'on appelle la jeunesse. Dans la mesure où cette définition est exacte, c'est-à-dire qu'être jeune, c'est vivre dans le présent. Vous comprenez ce que je veux dire par là ? Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'hommes jeunes, quel que soit leur âge. Ce sont ceux qui sont en phase avec le contemporain. Et c'était la raison pour laquelle jamais Israël n'a accepté d'être jeune de ce point de vue-là, c'était infantile. Parce que le contemporain était toujours décevant, insatisfaisant et à repousser. Et nous avions été toujours définis, soit par Jacob, soit par Benjamin, mais jamais par Joseph, à ce niveau. Est-ce que c'est bien clair? Bon. Or, pour aller plus loin et pour essayer de comprendre et de découvrir pourquoi il en est ainsi. C'est-à-dire pourquoi, en dehors de ces minorités qui sont, comme je vous le disais, par rapport au désert et au néant antérieur, qui sont considérables en valeur et en quantité relative, mais qui sont finalement qu'une toute faible partie de la disponibilité de l'énergie d'identité présente et contemporaine des Juifs, et pourquoi tellement de jeunes comme tels rencontrent une telle difficulté, un tel obstacle dans la relation qui devrait aller de soi dans la réalisation des promesses que nous sommes en train de vivre, que nous avons entendues pendant 2000 ans, et bon, qu'il y ait des personnes qui veulent quitter l'histoire d'Israël parce qu'elle n'est pas simple, parce qu'elle n'est pas facile, parce qu'elle est complexe, compliquée, tout ce que vous voulez, c'est encore on peut comprendre. Mais qu'il y ait tellement de jeunes qui se veulent juifs, mais qui ne s'authentifient pas par rapport à la réalité juive réelle, eh bien, authentique, eh bien, ça fait problème. Et alors, j'essaie de réfléchir à cette question, d'où la remarque suivante. Je crois que, au niveau de cet âge de la jeunesse, on va dire plutôt l'adolescence, ce sera plus précis, le véritable problème qui se pose à l'individu, du point de vue de sa vie intérieure et de sa vie et de sa relation avec la société où il veut s'insérer, c'est au fond un problème philosophique ou métaphysique. Il y a derrière toutes les apparences folkloriques des mouvements de jeunesse, il y a toujours une recherche métaphysique absolue. Seulement, on n'en parle pas parce que les adultes ont déjà passé cet âge, les jeunes entre eux n'ont pas toujours le langage, et puis entre jeunes et adultes, c'est indécent de se parler de ces choses-là, aussi indécent que de s'évanouir dans un salon Louis XV avec une tasse de thé à la main. Et imaginez une conversation portant sur le fond des choses, alors qu'il s'agit des réalités de la relation entre la jeunesse et le monde. C'est indécent. Dans la civilisation occidentale, on a la pudeur de parler de ces choses. Alors on va essayer quand même, j'ai pas de tasse de thé là. Et en réalité, à cet âge de la jeunesse, il faut simplement faire un effort de mémoire, et on se rend compte que c'est bien ainsi, le véritable problème d'engagement social ou politique, je veux dire soi-disant social, politique, etc., est un problème de la recherche du sens de la destinée, et tout simplement, du sens du salut de la personne. On a découvert qu'on existait, on est dans un monde qu'on ne comprend pas, et on s'engage quelque part pour essayer de trouver une solution à ce problème-là, le problème de la destinée de l'homme. Et ça c'est bien, enfin nous savons que dans n'importe quel groupement de jeunesse, que ce soit même ceux qui passent leur temps à écouter des disques ou autre chose, c'est le vrai problème qu'il y a au fond dans et qui explique leur rencontre. Est-ce que c'est bien clair? Tout le monde est d'accord, je pense. Bon. Et alors deuxièmement, il y a une autre marque qui apparaît, c'est que par le fait qu'il en soit ainsi, et que ce qui préoccupe le jeune en tant que tel, c'est le problème de sa destinée en tant qu'homme, alors d'emblée, ce problème se pose à lui en termes les plus universels possibles. Il y a, si vous voulez, d'universalisme possible. Il y a une générosité de cet engagement quant au problème du salut, et c'est ce qui explique pourquoi les jeunes en général, et en particulier les jeunes juifs, parce qu'ils travaillent par hérédité, sont d'abord sollicités par le mouvement de jeunesse, quelle que soit encore une fois l'apparence politique, sociale, si vous voulez, même s'il s'agissait d'une société de pêcheurs à la ligne, ce serait le même problème, sont sollicités par les idéologies qui apparaissent comme étant d'emblée universelles. Vous comprenez? Le fameux « tu aimeras ton prochain comme toi-même » a été compris par la jeunesse juive, de façon aberrante d'ailleurs, « tu aimeras ton lointain comme toi-même ». Mais c'est faux. Il y a écrit « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Si vous voulez pouvoir revenir sur le problème, et alors je crois que le tort, enfin pas le tort, le manque si vous voulez, de la manière dont les affaires juives se formulent par rapport à la preuve Genève, c'est que, alors que pendant tous les temps de l'exil, où nous n'étions jamais insérés dans le contemporain, où nous n'avions pas rencontré le présent, nous nous formulions toujours à l'échelle du problème de la destinée et à l'échelle la plus universaliste possible, et voilà que tout se passe comme si subitement, maintenant que c'est arrivé, nous nous formulons dans des catégories ou dans des slogans qui, si j'ose dire, enfin pour le moment je fais une analyse, qui déçoivent les jeunes en tant que tels, parce qu'ils n'y perçoivent pas ce qui correspondrait à leur exigence à l'échelle la plus universelle. C'est-à-dire que, subitement, en quelques années, l'identité juive apparaît comme, faussement d'ailleurs, mais elle apparaît dans sa formulation comme repliée dans une spécificité de mise à l'écart de ce qui a été en réalité sa raison d'être, c'est-à-dire le problème du salut à l'échelle la plus universelle. Voilà, je crois, ce qui pourrait expliquer pourquoi tellement de jeunes sont sollicités par ces mouvements qu'on appelle aujourd'hui gauchistes ou de formulation analogue, et qui en particulier, pour des raisons d'ailleurs qui sont intéressantes d'analyser, je vous donnerai aussi quelques remarques à ce sujet, se formulent contre la réalité d'Israël. Peut-être nous pouvions commencer par là. Vous avez dû remarquer que tous ces mouvements de la gauche, et en particulier c'est un mouvement très intense en France, dans d'autres pays, c'est moins visible. Et dans tous ces mouvements de gauche qui sont habitués à une générosité de ce type, je parle des jeunes, n'est-ce pas ? Les politiciens adultes, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a déjà des intérêts qui ressortent des responsabilités que l'on a prises dans la vie réelle. Mais je parle au niveau de la jeunesse. Eh bien, on sont pratiquement restés, non pas indifférents, ils étaient torturés, mais sont restés silencieux pour ce qui s'est passé au Biafra ou au Bangladesh, par exemple. Or, il y a eu là, systématiquement, des génocides énormes, réels. Et comme disait un de nos amis, je crois que c'est Marien Strass qui a écrit ça dans les temps modernes, si je me souviens bien, il s'agissait d'un génocide progressiste. Et que les observateurs de politique, non seulement de l'ONU, mais des mouvements politiques, avaient une espèce de don divin qui leur permettait de deviner en regardant un cadavre s'il était dans le sens de l'histoire ou pas. Alors, si le cadavre était dans le sens de l'histoire, on le plaignait, sinon on n'en parlait pas. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire, d'accord ? Il y a eu effectivement des génocides réels au Biafra et au Pakistan oriental. Et il y en a eu un troisième, c'était au Soudan. Et c'était des génocides progressistes. Alors la gauche n'a rien dit. Parce que, alors tout ça disqualifie les pseudo-générosités idéalistes de ces mouvements. Pourquoi ? Parce qu'ils sont travaillés par un énorme complexe qui joue surtout en France à cause de l'Algérie vis-à-vis des Arabes. Étant donné que ça pourrait causer tort à la cause arabe, alors il ne fallait pas prendre position sur. Mais cela, c'est anormal. Vous comprenez ? C'est anormal, il n'en reste pas moins que le problème en ce qui concerne notre propre jeunesse se pose à ce niveau. S'ils perçoivent la motivation universaliste, alors ils perçoivent de nouveau, quelle que soit leur connaissance traditionnelle ou non traditionnelle des contenus juifs, ils perçoivent de nouveau ce que instinctivement ils devaient, en tant que juifs, entendre par militantisme. Parce que notre nation, comme nous le savons, et de par l'histoire et de par les textes, s'est constitué par ce projet de reconstruction de l'universel. Alors il y a là un point sur lequel les responsables de la jeunesse auront certainement à réfléchir. D'autant plus qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que nous avons cette chance extraordinaire que nous sommes la seule nation au monde pour qui l'universalisme est une doctrine nationale, est un patrimoine national. Pour toutes les autres nations au monde, il y a une distance entre sa propre insertion spécifique, quelle que soit la nation, et d'autre part, le rêve ou l'espérance universaliste. Or, en ce qui concerne Israël, il y a là une chance traditionnelle de l'histoire, c'est que le seul cas au monde où ça coïncide, que l'exigence universaliste qui fait le fait de la jeunesse, comme j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure, C'est un patrimoine national et, non, et qu'il n'y a pas, en principe, qu'il ne devrait pas y avoir conflit entre ces deux niveaux. Est-ce que vous comprenez le problème? Bien. Bien. Or, j'en arrive maintenant à la deuxième partie de cette analyse. Je vous disais tout à l'heure, dans le déroulement des premières remarques, qu'effectivement, il semble qu'il y ait une crise de motivation très grave dans ce qu'a été le mouvement sioniste, en tant qu'il est ce troisième moment dans notre histoire d'une jeunesse du peuple. Je veux dire, c'est au niveau des jeunes qu'un peuple devient jeune. Mais un peuple ne devient jeune que dans la mesure où il vit au présent. Et ce que nous vivons, nous, Israéliens, aujourd'hui, n'est pas traditionnel du point de vue de la tradition juive. Parce que ça n'a jamais été le cas que le juif vive au présent. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et par conséquent, ça ne peut être caché que si c'est vraiment caché. Parce que sinon, ce serait vraiment aberrant du point de vue de ce qu'a été l'identité juive traditionnelle. Je veux dire, si ce n'est pas vraiment le cas, comme nous croyons, d'une mutation d'identité, alors ce serait une hérésie par rapport à l'identité juive. Parce que l'identité juive comme telle, du point de vue traditionnel, et j'ai essayé de l'éclairer en vous montrant qu'on ne trouve dans aucun texte de toute notre littérature référence à ce fait de la jeunesse, comme cette exception, a toujours été de se définir par rapport aux nostalgies de la mémoire et à l'espérance de l'avenir. Vous comprenez bien ce problème. Vous voyez en quoi Bergson était très dans ce problème, matière et mémoire. Vous vous rappelez de ce que vous dites? C'était vraiment assez bergsonien, ce problème. Bon, enfin,